Chers auditeurs de France Culture, je vais vous raconter une histoire. La Renaissance est ce temps d'une révolution humaniste dont l'épicentre est Florence. Dans cette ville se rallument tout à coup Athènes, Rome, Jérusalem, les mystères d'Hermès Trismégiste, les feux de la Kabbale et de la Gnose. Au beau milieu de cette effervescence, un homme, un prophète au cerveau bouillonnant, Leonardo da Vinci. On pense alors que l'homme n'a pas de place fixe dans la création, qu'il peut se sculpter lui-même, transformer son âme et s'élever jusqu'au niveau des anges. L'homme de la Renaissance italienne est un homme complet aux confins de la philosophie, de l'art, de la science et de l'ésotérisme. À 18 ans, un penseur comme Jean Pique de la Mirandole est polymathe, polyglotte, avec une vision syncrétique de tous les savoirs puisés dans l'étude en langue originale des corpus grecs, latins, arabes, hébreux. À 23 ans, il avait déjà publié le Discours sur la dignité de l'homme, une œuvre majeure qui a servi de base à nos idéaux démocratiques. Après avoir épuisé l'hermétisme, le platonisme, la cabale dont il donne une version chrétienne, les traités d'harmonie et de proportion, le pythagorisme et la science des arts, Pique de la Mirandole se permet le luxe de mourir à 31 ans en laissant une œuvre visionnaire et en jetant les bases de l'idée moderne de dignité. Bref, l'humanisme est l'atmosphère dans laquelle s'ébroue librement Leonardo da Vinci. Donne, questa è un'anima perfetto, a molte cose chiama il silenzio, e vien da lungi di un paese strano, sta dove esce il mizio. Son génie est complexe. Il s'épanouit dans cette foire aux sagesses de la Florence renaissante. Il peint, sculpte, invente, se veut presque un médiateur, un acteur cosmique qui transforme en esthétique des savoirs bouillants, pleins de correspondances entre mille époques et mille cultures. Da Vinci était l'homme qui voulait tout comprendre pour tout créer. Ce genre d'homme, ce savant artiste, dont l'ambition insensée a toujours des racines obscures, a expliqué la couleur du ciel, la formation des montagnes, a inventé l'ingénierie moderne, pensé à une machine à voler, a imaginé des villes idéales, a fait les premières dissections humaines dessinées par un artiste, fixé les proportions parfaites avec son homme de Vitruve et produit le tableau le plus célèbre de tous les temps, la Joconde. Mais le mystère de l'identité de celle-ci n'est pas celui qui nous occupe aujourd'hui. Alors posons la question franchement. Qui était la mère de Da Vinci ? On sait que Leonardo est né le 15 avril 1452 près de Vinci, en Toscane, fils illégitime de son père Ser Piero da Vinci, un notaire florentin. Sa mère est désignée dans les registres comme Caterina. Pendant longtemps, cette mère a été très mal identifiée. Peu de documents la mentionnaient, ce qui a laissé place à nombre de spéculations. À 15 ans, elle aurait été enceinte de Ser Piero, qui était à l'époque un jeune notaire de 25 ans. Un registre fiscal de 1457, tenu par le grand-père de Leonardo, mentionne un enfant né de Ser Piero et de Caterina, ce qui constitue le document le plus solide reliant Caterina à Leonardo. Comme Leonardo était né hors mariage, il ne pouvait pas suivre la voie paternelle, le notariat. Il grandit, après quelques années avec sa mère, dans la maison de son grand-père paternel dans le village de Vinci. Ser Piero se marie peu après la naissance de Leonardo avec une autre femme, et Caterina est oubliée. Da Vinci n'a jamais parlé de sa mère, mais les recherches récentes pointent un curieux lignage qui a tout pour étonner. Caterina, mère du Einstein de la Renaissance, serait une schiava circassa, une esclave. Une esclave circassienne. Carlo Vecce, un historien italien spécialiste de la Renaissance et de Léonard, soutient que la mère de Léonard pourrait avoir été une esclave d'origine circassienne. Selon lui, un acte d'émancipation conservé aux archives d'État de Florence, daté de 1452, porterait le nom de Caterina et attesterait qu'elle a été libérée de l'esclavage pour recouvrer, dit le texte, sa liberté et sa dignité d'être humain. Cet acte aurait été signé par Ser Piero da Vinci, c'est-à-dire le père de Léonard. Ces régions slaves et balkaniques étaient alors un réservoir d'esclaves dans lequel se servaient les marchands génois, les vénitiens et surtout les ottomans. À Smyrne, Constantinople ou Trébizonde, les belles circassiennes se vendent pour leur beauté à des banquiers, des notaires ou des marchands florentins. Caterina, au regard triste, aurait été enlevée dans le Caucase, fille d'un certain Yakov, chef de clan, selon certaines traditions évoquées par les chercheurs. Elle a été capturée lors d'une embuscade, puis vendue à travers plusieurs villes. Ce commerce d'esclaves blancs est documenté, même si les mentions en ont toujours été plus discrètes. L'esclavage dans le monde méditerranéen ne concernait pas seulement des populations africaines, mais aussi des Européens, slaves, caucasiens. Sur toute l'histoire, on estime que cette traite des Blancs a réduit en esclavage entre 15 et 30 millions d'individus. L'esclavage des Circassiens, peuple du Nord Caucase ou Tcherkesse, à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, concerne aussi les Géorgiens, les Abkhazes, capturés puis vendus dans les réseaux esclavagistes de la Méditerranée et du monde islamique. On leur attribue une grande valeur, d'abord pour leur noblesse, leur beauté physique, mais aussi pour leurs compétences guerrières, leurs traditions aristocratiques, La présence de belles circassiennes dans divers harems princiers est souvent évoquée dans les textes. Katerina est le prénom le plus fréquemment attribué aux esclaves féminines rebaptisées. La mère pourrait être née d'un prince guerrier dans les montagnes qui surplombent la mer Majeure, là où Pindare situe l'épisode des Argonautes et de la Toison d'Or. Katerina filia Jacobi eius sclava seus serva de partibus circassie, disent les actes. Katerina, fille de Jacopo, sa schiava ou servante ou esclave, originaire des régions de Circassie. On dit que Leonardo lui ressemblait, mais qu'il lui avait été interdit de l'appeler maman. Il en était ainsi des enfants dits illégitimes. Leur mère n'avait aucun droit parental, n'habitait pas avec l'enfant et devait disparaître de la vie du père. Da Vinci, qui esquissa tant de visages féminins et en premier lieu le plus célèbre sourire féminin de tous les temps, n'aura donc jamais peint sa mère. Il manque à son œuvre ce portrait où l'on aurait certainement décelé le souvenir des steppes, des conquêtes mongoles et des épopées caucasiennes. Et pourtant, nous lui devons l'énigme visitée quotidiennement au Louvre par ces millions de touristes qui ont tous dans leur téléphone le portrait de maman.
Bien, hermano, vine a verte, no es para pedirte nada. Si aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención. Ese gran carro en la puerta, esta mansionada casa, dice lo que profesaste, es alta tu posición. Esta salita en que estamos, decorada lo moderno, con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral. No saques la cartera, no es por plata que yo vengo, pero dime tú el retrato de la vieja, ¿dónde está? Pobre vieja, ella que tanto te quiso, que llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar.
Dans quelques secondes, cette émission sera réécoutable pour l'éternité sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. Réalisation acrobatique de Cassandre Puel, prise de son cosmique de Sofiane Aktib, mixée à la main par Jordan Fuentes, chargée de programme Aurélie Marsay. Une autre semaine commence, qu'elle vous soit truculente.
Porque entre tantas alhajas falta la joya más cara.